Merci, Monsieur le Président. Je reprends à mon compte les interventions des différentes délégations. De toute évidence, tous appellent de leur vœu une stratégie de mise en œuvre beaucoup plus solide et robuste de la déclaration et du programme d'action, d'autant plus que l'on se rapproche de la célébration de leur 20e anniversaire. Je pense qu'il s'agit de discussions qu'il faut avoir au niveau local, régional, national, mais aussi au niveau national et international. Et c'est là le rôle que peut jouer le groupe de travail. Il peut mobiliser un front mondial et solidaire qui puisse lutter contre les problèmes de racisme qui ont été épinglés. Parmi les principales difficultés que l'on a pu répertorier, il y a le fait que de nombreux mouvements d'extrême droite, de plus en plus, ceux de plus en plus arrivent au pouvoir de nations puissantes du monde occidental, ce qui est un véritable défi. Prenons l'exemple des États-Unis, où l'enseignement d'une théorie critique du racisme a été interdite, où le gouvernement fédéral ne finance plus les initiatives telles que la formation contre les stéréotypes raciaux et autres, car il s'agit d'un discours qui est considéré comme anti-patriotique, anti-américain. C'est ce genre de choses qui pour nous est particulièrement difficile. C'est un des défis que l'on ne peut pas régler au niveau local. Il faut en appeler à un front mondial et solidaire d'action internationale pour que la question de la justice raciale, de l'égalité raciale, de l'éradication de la discrimination raciale demeure prioritaire à l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle c'est ce que je dirais donc en réponse aux questions qui m'ont été posées, mais aussi aux commentaires qui ont été faits en particulier par les deux derniers orateurs. L'on ne peut plus s'imaginer aujourd'hui que les États, à eux seuls, mènent cette lutte contre le racisme, ni même s'en remettre au seul pouvoir politique, car on le voit, de nombreuses personnes utilisent ces divisions raciales pour parvenir au pouvoir. Il faut donc que de plus en plus, l'on autonomise la société civile, l'on mobilise les mouvements pour la justice raciale. On doit aussi donner aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour générer toutes ces connaissances dont on a besoin pour déployer des programmes de prise de conscience, mais pour pouvoir aussi amener les institutions à prendre la question du racisme beaucoup plus au sérieux. Il faut aussi réfléchir aux conséquences du racisme, il faut les rendre beaucoup plus visibles parmi l'opinion publique. Et pour ce faire, c'est ce que je recommande, c'est mettre en place un programme de pensée critique en matière de lutte contre le racisme qui puisse être diffusé de façon beaucoup plus large. Faire un lien entre la question de la race et la condition socio-économique est, comme vous le savez, absolument fondamental et indispensable. On n'arrivera pas à surmonter le défi que représente le racisme au sein de nos sociétés si l'on a encore autant de gens qui sont sans terre, sans ces ressources qui leur permettent de mener une vie digne, sans avoir accès à la santé, au logement, à l'eau, aux assainissements, à des moyens de transport efficaces et propres. C'est là quelque chose de très important et c'est peut-être la plus grande leçon que l'on a tirée de cette pandémie. Il faut penser, en même temps que l'on pense à la question de la race, la question de la justice socio-économique.
Lorsqu'on parle de bien-être économique et social pour les minorités raciales, il y a le droit à la terre également, les peuples autochtones, mais aussi les minorités raciales ont beaucoup parlé de ce droit à la terre, d'accès à la terre, accès à des terres exploitables, à des terres terrains agricoles, mais aussi à la propriété foncière pour y résider. C'est une façon de sortir de la pauvreté. Il faut répondre aux inégalités raciales en parlant de l'accès à la terre, du droit à la terre, etc. Il s'agit d'un lien avec le revenu minimum, les conditions minimum de subsistance, il faut entraîner des réformes et des changements dans nos sociétés qui nous permettent de garantir des droits, un minimum de droits à ces personnes en termes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à la terre, pour une démocratie qui connaît une cohésion sociale, pour une société florissante, pour que tous les êtres humains aient les mêmes droits. C'est essentiel. Il faut aussi s'attacher à deux autres points. Lorsqu'il y a une histoire de racisme, d'atrocité raciale, de génocide ou d'esclavage dans des sociétés, il faut que ces sociétés aient des cadres solides de répartition des richesses. Il faut pouvoir créer des équilibres de pouvoir. Il faut une redistribution des ressources aux communautés qui en ont le plus besoin afin de réparer les injustices du passé. Il faut donc un cadre mondial en termes de réparation dans le cadre de la justice sociale. Enfin, Monsieur le Président, certains parlent d'un impôt sur la fortune. Il faut regarder notre système fiscal et la façon dont le système fiscal peut être utilisé pour réparer les inégalités sociales entre les groupes ethniques et raciaux et pour plus d'égalité sociale et économique entre les hommes et les femmes dans le cadre d'une tentative globale pour s'assurer que la justice raciale et la justice socio-économique vont de pair dans notre stratégie de lutte contre le racisme. Ce qui est clair, Monsieur le Président, c'est qu'il faut une formulation plus forte, plus ferme, parce qu'il faut s'assurer que nous parlons bien de la question de la suprématie blanche, parce que nous sommes face à des groupes de suprémacistes blancs haineux, et il y a trop peu de politiques trop lentes pour s'attaquer aux inégalités raciales dans nos sociétés. Il faut un cadre solide et complet pour lutter contre cette question d'inégalité raciale de façon plus directe et globale, pleinement, par rapport à ce que nous avons fait au cours des deux dernières décennies. Je vous remercie.